tout de suite sur votre radio associative arageoise Radio PFM, une émission réalisée dans le cadre d'un atelier de découverte radio à Arras Ouest. L'émission s'appelle le Ch'ti Boui Boui, troisième émission Ch'ti Boui Boui, avec cette semaine Eladj, Mamadou et Rémi.
Le Ch'ti Boui Boui,
le Ch'ti Boui Boui.
La CHAM, ça veut dire déjà classe à horaire aménagée et musique.
Chère Sandra, merci d'avoir eu l'amabilité de m'écrire. Écris-moi à nouveau et dis-moi plus sur toi.
Demande d'asile ne veut pas dire souffrance ou malheur.
L'émission est réalisée dans le cadre de l'atelier de découverte radio le samedi matin, de 10h à 11h30 au centre social d'Arras Ouest.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième numéro du Ch'ti Boui Boui, l'émission atelier de PFM en partenariat avec le Centre Social Arras Ouest. Au sommaire de cette émission, Mamadou nous propose une rencontre avec le responsable et une éducatrice du Centre d'accueil des demandeurs d'asile d'Arras. On aura également une surprise musicale proposée par Eladj. Et enfin, on retrouvera Christian Guffroy qui va nous livrer au micro de l'équipe du Ch'ti Boui Boui un regard sur la situation des migrants à Calais. Mamadou, c'est à toi, on te suit jusqu'au CADA.
Chers auditeurs de la radio PFM, aujourd'hui nous avons comme invité Thierry Boxtel, directeur du CADA, et Hélène David, éducatrice spécialisée, qui nous parleront du CADA. CADA, c'est un centre d'accueil pour demandeurs d'asile.
Alors, le CADA a été ouvert en juillet 2010 sur la ville d'Arras, avec la possibilité d'accueillir et des hommes isolés et des familles. Donc on a un bâtiment collectif qui est situé à résidence Saint-Paul au numéro 1 voie Bossuet, qui aujourd'hui permet d'accueillir 25 personnes et des familles en logement qui donc correspondent à 35 personnes au total, donc principalement sur la ville d'Arras et sur la ville de Saint-Nicolas. On a aussi un logement sur la ville d'Achicourt. Donc ce sont des familles qui nous sont orientées par le dispositif national d'accueil et qui viennent en France pour solliciter l'asile. Donc, la demande d'asile est encadrée par la Convention de Genève de 1951. Donc le CADA a une mission de prise en charge, d'accueil des personnes qui fuient leur pays, les gens qui se réclament d'une protection internationale, donc qui sont principalement en danger dans leur pays. Et dans l'attente d'une décision de l'OFPRA, qui est l'Office français pour les réfugiés apatrides, qui va statuer si les personnes relèvent ou non d'une protection internationale. Donc voilà principalement le rôle du CADA, c'est d'assurer durant l'attente de la décision un accueil pour les personnes qui sont dans cette situation.
Actuellement, et quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés au sein de ces CADA ?
Bon, difficultés matérielles, on a effectivement les moyens pour accueillir les gens, vu qu'on a des financements de l'État pour assurer la prise en charge des personnes qui nous sont confiées. Les difficultés, sur la prise en charge des personnes sont plus des difficultés d'intégration par rapport à la diversité des langues qui sont pratiquées par les familles qu'on accueille. Des difficultés par rapport à la prise en charge des traumatismes qu'ils ont pu vivre dans leur pays, hein, donc des situations qui sont parfois très très difficiles à gérer pour les équipes et pour les personnes qui arrivent, hein, parce qu'il y a des gens qui ont quand même été victimes soit de barbarie, soit de torture, il y a des gens qui ont pu perdre une partie de leur famille. De toute façon, l'exil n'est jamais facile, hein, donc quitter son pays et arriver en France nécessite de toute façon un accompagnement. Donc je dirais l'une des missions les plus importantes de l'équipe, c'est la prise en compte et la prise en charge de ce traumatisme. Après, je dirais, il y a une autre dimension qui est aussi importante dans l'accompagnement, c'est la durée. La durée, le temps que prennent les décisions pour avoir une réponse de l'OFPRA ou de la CNDA sur est-ce qu'effectivement les gens seront reconnus réfugiés. Bon, en CADA, on a tendance à dire c'est comment gérer l'attente, en fait. Hein. Ça peut durer très longtemps et donc, effectivement, les gens n'ont pas le droit de travailler, n'ont pas le droit d'accéder à une formation. Il faut quand même avoir une réflexion sur la manière dont ils peuvent se sentir bien malgré ce qu'ils ont pu vivre et ce qui les a fait choisir le départ de leur pays.
qu'est-ce que le rôle d'un éducateur dans ce cas-là?
Alors, l'éducateur, il est chargé d'accompagner au quotidien les résidents qui sont accueillis ici en CADA. Donc, il est chargé de l'accompagnement administratif. Donc, administratif, alors d'abord juridique par rapport à la demande d'asile, hein, donc dans le cadre du passage devant l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés apatrides. Ensuite, si nécessaire, de faire un recours avec la personne, d'aider au recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Donc ça, c'est pour le volet juridique. Ensuite, il est également chargé d'accompagner la personne dans tout ce qui est démarche plutôt au niveau médical, donc par exemple l'ouverture des droits sociaux, CMU, CMU complémentaire, l'orientation vers les spécialistes, les docteurs, hein, donc ça c'est tout le volet médical. Et puis ensuite, il y a tout le volet éducatif. Hein. Par exemple, ici, effectivement, Thierry l'a dit tout à l'heure, on a un bâtiment collectif. Donc, il y a toute une gestion au quotidien, hein, voilà, de la collectivité. Donc, c'est également notre rôle. Et puis, on est aussi présent à travers les activités qu'on peut mettre en place. Et puis, voilà, l'accompagnement individuel de chaque personne.
Quelle est la différence entre un demandeur d'asile et un migrant ?
Alors, un demandeur d'asile, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui a demandé l'asile, donc qui est en cours, voilà, qui a déposé une demande devant l'OFPRA et qui est en cours de demande d'asile. Alors qu'un migrant, c'est juste une personne qui a quitté simplement son pays, qui n'a pas forcément demandé la protection d'un État, quelqu'un qui migre, quelqu'un qui se déplace.
Quand est-ce que prend fin l'accompagnement d'un demandeur d'asile au sein du CADA ?
Eh bien, tout simplement lorsque la demande d'asile est terminée. Donc, soit l'issue est positive, auquel cas le demandeur d'asile obtient le statut de réfugié, donc une permission de séjourner en France dans un premier temps pendant 10 ans, ou une protection dite subsidiaire qui lui autorise à avoir un titre de séjour un an renouvelable plusieurs fois. Donc là, voilà, c'est positif. Donc la personne peut rester à l'issue donc de cette réponse positive 3 mois au sein de notre CADA. Si c'est une réponse négative à sa demande d'asile, dans ce cas, il a 1 mois pour quitter notre structure.
Quand les gens sont statutaires, c'est pas fini pour eux, quoi. Hein, ça veut dire qu'il faut qu'ils trouvent un logement, qu'ils trouvent un travail ou qu'ils y accèdent à la formation. Et que là, c'est le démarrage d'une autre histoire. Aujourd'hui, effectivement, il faut quand même signaler qu'il y a un besoin important pour les CADA. Il y a un besoin important en France sur l'accueil des demandeurs d'asile, hein, vu qu'il y a une augmentation des flux migratoires, qu'il y a malheureusement de plus en plus de gens qui sont contraints à quitter leur pays et qu'il faut bien développer des solutions pour pouvoir les accueillir.
Quel est l'effectif total maintenant de votre CADA ?
Alors, le CADA a 60 places agréées et actuellement il y a 62 personnes. Et on a aussi un dispositif d'hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile qui peut accueillir 44 personnes.
Est-ce qu'un demandeur d'asile peut être exclu du CADA avant la fin de sa procédure ?
C'est un cas exceptionnel. Ça peut arriver, oui, bien sûr. Le CADA a un règlement. Les gens ici doivent respecter ce règlement. Enfin, je parle surtout du collectif. Hein. En général, les familles au logement diffus, il n'y a pas vraiment de raison, ou bien il faudrait qu'il y ait des raisons qu'on n'a jamais rencontrées pour l'instant, donc du type trouble de voisinage ou des choses comme ça. Mais en général, on n'a pas de difficultés dans le cadre de familles installées à l'extérieur. Ça peut être plus le cas en collectif parce qu'effectivement, vivre ensemble, c'est pas toujours facile. Hein, et donc, ça suppose aux gens d'être adultes, de savoir s'organiser entre eux, de partager des espaces collectifs. Si le règlement n'était pas respecté, il pourrait y avoir à un moment un renvoi. Bon, alors après, il y a un règlement, il y a toujours essayer de comprendre ce qui se passe, plusieurs avertissements avant d'arriver à une fin de prise en charge. Je me rappelle d'une situation, mais parce que la personne avait des difficultés personnelles, qui était plus compatible avec une prise en charge dans notre établissement, et donc on a dû arrêter la prise en charge. C'est des problèmes de santé importants, donc qui faisait qu'on ne pouvait plus continuer son accueil. Mais voilà, bon, après, effectivement, ce qui justifie de manière catégorique un renvoi dans des délais, on va dire, immédiats, c'est tout problème qui serait lié à des problèmes de violence, ou envers l'équipe, ou entre résidents, où là, effectivement, il y aurait forcément une interruption de prise en charge.
Thank you.
Arras est une ville qui est aujourd'hui une ville assez importante dans le Pas-de-Calais. Hein, c'est la préfecture du Pas-de-Calais. Il y a une communauté urbaine aussi qui fait à peu près 100 000 habitants. Donc aujourd'hui, il y a un CADA. D'ailleurs, on est sur un projet d'extension du CADA de 20 places. Et même 80 places pour une ville de 100 000 habitants, ça reste tout à fait envisageable en termes de politique d'intégration d'un dispositif dans une communauté urbaine. De plus, il faut savoir que les gens qui arrivent au CADA ne choisissent pas le lieu où ils arrivent. Ils sont orientés par le dispositif national, donc ils ne vont pas venir à Arras, on les oriente à Arras. Ce qui veut dire aussi qu'un certain nombre n'ont pas forcément projet après la décision de se maintenir dans le département du Pas-de-Calais. Ils peuvent très bien avoir des réseaux familiaux ou d'autres raisons professionnelles pour quitter le département et aller dans d'autres agglomérations. Donc nous, on constate en tout cas sur l'expérience qu'on en a la plupart des hommes ne restent pas sur l'Arrajois après la reconnaissance du statut. Quelques-uns, mais pas loin d'être la majorité. Et pour les familles, c'est aussi très variable. Donc Arras, oui, c'est une ville intéressante aussi en termes de ce qu'on peut proposer aux demandeurs d'asile au niveau de la culture, du loisir. Donc il y a la scolarisation, on n'en a pas parlé. Il y a aussi tout le travail qui est fait par l'équipe sur la scolarisation des enfants, qui fait partie des missions du CADA. Et bon, on a un très bon partenariat avec les différentes écoles de la ville qui permettent de faciliter l'accès à la scolarisation des enfants.
Alors, on a parlé tout à l'heure de gestion de l'attente. Et effectivement, il y a par rapport à ça plusieurs choses qui sont mises en place au CADA. Je voulais insister parce que personnellement, je mène cette activité ici au CADA. C'est les cours de français qui sont vraiment importants pour le public qu'on accueille. On parlait tout à l'heure d'intégration, d'insertion. Et donc, voilà, ça passe forcément par l'apprentissage de la langue française. Donc, je voulais indiquer que c'était important et quelque chose qui faisait partie des activités parmi l'ensemble de ce qu'on peut proposer sur le partage et aussi la découverte et la richesse de ce public-là. Voilà, c'était aussi quelque chose d'important. C'est très enrichissant de travailler avec les demandeurs d'asile. On découvre beaucoup de cultures, il y a toujours un échange. Ils arrivent en France, on doit non seulement leur apprendre nous, comment on vit en France et comment ils vont pouvoir s'intégrer dans notre société, mais il faut savoir que c'est un partage au quotidien, c'est une découverte de la langue, de différentes cultures, donc c'est vraiment quelque chose de très enrichissant.
Et vous, en tant qu'éducatrice spécialisée, vous êtes confrontée tous les jours à des cas différents. Est-ce que vous avez peut-être un rôle de psychologue?
Ah, oui, le dialogue est très important dans la prise en charge qu'on peut donner ici au CADA. Et c'est vrai que de par les discussions, et parfois les personnes vont mal. Donc c'est vrai que la prise en charge psychologique, on n'a pas de psychologue ici au CADA. Donc effectivement, souvent, c'est nous qui jouons un petit peu ce rôle. Pas au niveau, on n'est pas des professionnels de la psychologie, mais on essaye par le dialogue, de rassurer les personnes. Et de faire que le temps du CADA soit le plus agréable et toujours en essayant de motiver la personne par rapport à l'obtention d'un statut de réfugié. C'est le but en tout cas quand les personnes arrivent ici. On fait tout notre possible pour que ça se passe bien et que elles obtiennent dans le meilleur des cas le statut de réfugié.
Est-ce que tous les travailleurs d'ici sont des éducateurs spécialisés ou il y a une différence entre éducateurs spécialisés ou éducateur simple?
On a une équipe qu'on qualifie de pluridisciplinaire, vu qu'on a plusieurs corps de métier dans l'établissement. On a effectivement par exemple Hélène qui est éducatrice spécialisée, mais on a aussi des assistantes sociales. On a aussi d'autres personnes qui ont d'autres cursus qui nous ont intéressés, mais aussi qui l'une des compétences qu'on cherche aussi, c'est les compétences linguistiques. Donc on a aussi des gens qui par leurs compétences linguistiques, comme le fait de parler arabe, c'est un atout. Alors parfois on a des gens qui sont et travailleurs sociaux et qui parlent arabe, donc c'est assez bien. Bon, parfois on a des gens qui n'ont pas forcément été formés au travail social et qui se sont intéressés dans leur parcours professionnel aux questions liées à la migration ou à la demande d'asile. et qui donc font acte de candidature quand on a pu recruter. Et donc on a une équipe assez diversifiée qui permet aussi d'avoir un regard un peu croisé sur les questions qui touchent à l'asile et sur la prise en charge de personnes qui viennent d'autres pays.
Nous venons d'écouter Thierry Boxtel, directeur du CADA, Hélène David, éducatrice spécialisée. Je passe la parole à Rémi.
Merci Mamadou. Il est temps de retrouver donc la surprise musicale d'Eladj. Alors Eladj, tu nous proposes d'écouter quoi aujourd'hui ?
En fait, je vous propose d'écouter Rika dans son titre Djomba. Donc avant de commencer, je vais d'abord juste vous faire un petit résumé sur Rika. Rika est un artiste chanteur guinéen très doué à la guitare. Il fut repéré par un ténor de la musique guinéen Doura Barry qui le plaça sous ses ailes. En 2009, il sort son premier album qui fut accueilli avec enthousiasme par le peuple guinéen. Son titre phare, Djomba, que nous allons vous faire écouter, nous plonge dans le vrai sens du mariage à la guinéenne. Djomba, dans le langage poulard en Guinée, signifie la mariée. Ce titre fait sortir les règles strictes du mariage, à savoir le port du pagne blanc, symbole de la pureté, la dot, symbole d'union sacrée, le coup de fusil, témoin de cette union, les pleurs des femmes, signe de séparation. C'est un titre qui berce l'auditeur par ses sonorités. La voix suave de l'artiste est la mélodie douce de la flûte pastorale Peul, instrument très symbolique de cette région du Fouta. Nous allons écouter Rika. Oh,
Réalisée dans le cadre de l'atelier de découverte radio le samedi matin, de 10h à 11h30 au centre social d'Arras Ouest.
On va écouter Christian Guffroy, militant du PUI, parti ouvrier indépendant, qui va répondre aux questions de l'équipe du Ch'ti Bouiboui.
On accueille Christian Guffroy qui va nous parler des migrants à Calais. Bonjour, qu'est-ce qui vous a motivé à aller là-bas ?
Bonjour, qu'est-ce qui m'a motivé ? C'est que je suis militant internationaliste, je suis au Parti ouvrier indépendant, qui fait partie de l'Entente internationale des travailleurs, et en même temps je suis dans un courant de ce parti qui est la section française de la 4e internationale. Donc, quand on entend le mot international, on comprend plusieurs nations. Et puis Calais, c'est vraiment le lieu symbolique, là, maintenant, en France, de cet internationalisme que j'appelle internationalisme prolétarien, ouvrier, parce que les migrants qui sont là-bas, ils sont comme les ouvriers en France, confrontés exactement, enfin, à des problèmes plus compliqués, bien sûr, mais ils ont le même ennemi qui est... Parce qu'on avait le capitalisme, il faut parler clairement, quoi. Et ils cherchent une terre d'accueil. Et il y en a un qui nous a dit, je lui ai posé la question, c'était un Égyptien. J'étais surpris qu'il y ait des Égyptiens. Pour moi, les Égyptiens, l'Égypte, on va en vacances en Égypte, etc. Donc ils m'ont raconté la dictature, la misère, etc. J'ai compris pourquoi ils fuyaient l'Égypte. Dictature... De l'armée, là. Maintenant, c'est l'armée qui a le pouvoir. Ils se sont débarrassés de Moubarak et puis ils se tapent un autre dictateur armé par l'impérialisme américain. Donc cet Égyptien m'a dit, je veux aller en Angleterre ou en Irlande, je ne sais plus où, lui. Parce que là, j'aurai un travail, un salaire, une maison. Et j'ai déjà entendu des jeunes Calaisiens qui disaient, nous, tout ce qu'on veut, c'est un travail, un salaire, une maison. C'est le même genre, c'est les travailleurs de la terre. Voilà pourquoi je suis allé à Calais.
Est-ce que la réalité sur le terrain est bien celle qu'on voit à travers les médias ?
Les médias, évidemment, ils vont montrer ce qu'on peut appeler les points culminants. S'il y a des agressions, il y a un mort sur l'autoroute. Les médias, ça s'intéresse à ça, aux faits divers. Donc on pourrait peut-être penser que... C'est des faits divers qui sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus généralisés que ça. Maintenant, je ne peux pas me fier à ma propre expérience, puisque je suis allé trois fois à Calais. Je dois dire que j'ai vu une ville calme, je me suis promené, j'ai été voir des migrants, j'ai parlé avec eux, j'ai senti aucune tension. Je suis allé dans la médiathèque, il y avait les Érythréens étaient dans la médiathèque, il y avait un silence de mort. Ils étaient tous assis, des jeunes, des gamins, on a parlé avec eux. Ils étaient tous assis, ils parlaient tout bas, ils feuilletaient des livres, ils allaient sur Internet, ils avaient le droit d'aller aux toilettes. Et voilà ce que j'ai vu, moi, c'est ma réalité. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des problèmes quand ils attaquent les camions, enfin attaquer c'est un grand mot, quand ils essayent de monter dans les camions, évidemment il y a des échauffourées, on va dire, avec la police, qui les ramène dans Calais. Et tous ceux avec qui j'ai discuté, ils m'ont dit on ne retournera pas dans notre pays. Les Érythréens, il y a un gosse de 18 ans, il avait fait un mois de prison, quoi. Après, j'ai lu ce qui se passe en Érythrée, c'est assez épouvantable.
Vous, en tant que militant du POI, quelle solution doit préconiser l'État ? Construction des centres d'accueil, régularisation ou bien renvoi ?
Renvoi en aucun cas. J'ai entendu Marine Le Pen et à la radio. Je l'ai entendu dire, nous, tous les migrants, si on est au pouvoir, on les arrête tous et on les renvoie dans leur pays. Alors, je trouve ça d'abord tout à fait inhumain. Quand on sait ce qui se passe dans ces pays, et ensuite tout à fait stupide, parce qu'à moins d'ériger tout autour de la France un mur de 4 mètres de haut avec des miradors, je ne vois pas comment on peut empêcher des gens qui ne cherchent qu'à survivre d'essayer de traverser le monde entier pour arriver à un endroit où vont pouvoir vivre dignement, quoi. Donc c'est vraiment une stupidité de la part de Marine Le Pen. La solution au problème, c'est dans ces pays-là que ça doit se résoudre. Mais en attendant, le problème des migrants, ça demande que tous les migrants qui veulent venir en France soient accueillis et qu'ils trouvent un travail et qu'ils aient des papiers. Ça me paraît évident. On ne va pas me dire qu'un pays comme la France, plein de richesses, ne peut pas accueillir des migrants. Ça, c'est faux. Ça fait un siècle que la France accueille les migrants. On a vu les Algériens, les Polonais. Tous ces migrants sont venus, ils vivent en France, ils sont intégrés, ils sont venus bosser, ils ont un travail. On ne va pas me dire que ce n'est plus possible, ça, c'est pas vrai. Maintenant, l'autre aspect, c'est que comme ils sont au fond de l'entonnoir qui est Calais, les services publics à Calais, ils sont un peu débordés, quoi. Les policiers, ça ne se fait pas de dire que les policiers, on ne doit pas défendre la police. Moi, je défends la police parce qu'ils protègent tout le monde. Il manque de policiers pour gérer cette situation. Il manque de pompiers. Les migrants vont aux urgences, ils sont soignés, heureusement. Et il manque de personnel dans les urgences. Il faudrait qu'ils fassent leur demande d'asile. Il faut qu'ils aillent à Arras, à une préfecture qui est ouverte 2h le matin. Et ce n'est pas avec le pacte de responsabilité qui va encore essayer de supprimer 50 milliards de dépenses publiques qu'on va trouver des moyens financiers pour améliorer les services publics à Calais. Ça manque cruellement. Ça, c'est ce que nous a dit un secrétaire d'une union locale. Il est affolé. Tous les jours, il voit des chauffeurs de camions qui viennent. Il faut savoir que les migrants, ils essayent de monter dans les camions. Il y a trois contrôles. Il y a deux contrôles français. Et le troisième contrôle, c'est anglais. C'est comme si c'était un petit bout d'Angleterre, là, à la frontière en France. Et quand un migrant est pris par le troisième contrôle, c'est le patron de l'entreprise qui paye une amende de 2000 euros parce qu'il y a un migrant qui a réussi à monter dans son camion. Évidemment, le patron de l'entreprise, il se retourne contre son salarié. Et les salariés, ils vont voir les syndicats pour essayer de se défendre. Vous voyez la situation conflictuelle, quoi, qui se crée.
Où est-ce qu'on peut trouver le journal Information Ouvrière ?
Alors, Information Ouvrière n'est pas dans les kiosques. C'est un journal qui est fabriqué par nous, par notre propre imprimerie, et qui est vendu par les militants. Je vais dire de la main à la main, on n'a pas de structure de vente. Donc c'est essentiellement une vente militante. Ou sur abonnement, il y a 6 000 abonnés, un peu plus. Autrement, moi, dans le Pas-de-Calais, Christian Guffroy, 06 22 22 40 31, quiconque veut le journal me téléphone, je lui apporte. Il coûte 1,50€ depuis 15 ans.
C'était Christian Guffroy au micro de l'équipe de l'émission Ch'ti Bouiboui.
Nous vous remercions de votre aimable attention. Cette émission sera rediffusée le mercredi 4 février à 10h et le jeudi 5 février à 14h. Donc, vous pouvez également écouter cette émission sur le site www.radiopfm.com.
Un grand merci à Eladj, Mamadou et Rémi. Si vous voulez rejoindre l'équipe du Ch'ti Bouiboui, devenir animateur, chroniqueur, intervieweur ou reporter radio dans le cadre de cet atelier de découverte, rendez-vous tous les samedis matins au centre Léon Blum, avenue de l'Hippodrome à Arras-Ouest, quartier des Ochettes. Donc tous les samedis matins à 10h, c'est ouvert à tout le monde à partir de 16 ans. L'atelier est gratuit et se fait en partenariat avec le centre social Arras-Ouest. Plus de renseignements auprès de PFM, notamment au 03 21 50 99 99, 03 21 50 99 99.